Vous êtes sur Radio Shalom.
C'était pas prévu au programme. 16h30, 17h, bienveillance, respect, sourire. C'est tout ça l'esprit de Marc et Maggie.
Bonjour tout le monde. Excusez-nous, j'étais en train de poser une question très personnelle à notre invité.
T'as vu Arnaud, il y a un bel homme dans l'espace. Ça y est, moi je n'existe plus. Merci beaucoup.
C'est normal.
Mais si tu existes.
Voilà, regardez, vous avez entendu sa voix.
Voilà. Ben, on est sur Radio Shalom. C'était pas prévu au programme. Et je vais laisser Marc présenter notre super invité d'aujourd'hui. Parce que je sais que tu en as très envie.
Alors en fait, c'est pas que j'en ai très envie. C'est que juste, je trouve que c'est un super acteur. Il a une super voix. Il est super beau gosse. Et il m'énerve super. Mais à part ça. Alors super. Aujourd'hui, nous recevons. Attention, accrochez-vous, mesdames et messieurs, dans C'était pas prévu.
Surtout mesdames.
Surtout mesdames, dans C'était pas prévu au programme 94.8. Nous recevons monsieur François-Éric Gendron.
Ouais, bonjour.
Bienvenue. Bonjour. On est ravis. Hein.
Bonjour
franchement,
à tout le monde.
On est ravis. On attendait cette journée, cet après-midi, parce qu'on a toujours des invités superbes. Mais là, aujourd'hui, j'avoue que là, même moi, je suis sous le charme. Hein. Je suis très content. Bah écoute, sois pas jaloux, Marc Fichel. Hein.
Eh bah,
c'est
écoute,
normal.
C'est comme ça.
C'est
Arnaud,
normal.
Heureusement, on a ramené des chouquettes.
Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, je te laisse.
Je suis pas venu pour poser des problèmes.
Hein. Non, jamais. Bah, tu sais, il se passe la même chose quand il y a des jolies femmes qui viennent studio. Sache, hein, c'est donnant.
D'accord.
François-Éric Gendron, c'est un jeune homme né le 15 mars 1954. Mmh. Et oui, il a une grande carrière. Il est né à Fontainebleau, ce jeune homme. Et il est fils de Maurice Gendron. Un grand violoncelliste. Donc, il a appris, et il nous l'a dit, confirmé en off, ce qu'était le travail. Ouais. Car jeune acteur, jeune actrice, jeune comédien, jeune comédienne, on ne réussit pas en claquant des doigts. Le talent, c'est pas moi qui l'ai dit, tout le monde le dit, Brel l'a dit avant moi, c'est le travail.
Travail.
Et François-Éric Gendron nous l'a confirmé tout à l'heure en off. Quand tu voyais ton papa travailler jusqu'à
2h du matin avec sa petite lame de rasoir parce qu'à l'époque il n'y avait pas le copier-coller.
Ah oui.
Donc il grattait, il achetait les partitions et puis après il adaptait ses doigtés de touche. Et donc il grattait pour mettre un 2, un 4, nanana. Et je le voyais gratter comme ça, avec sa cigarette dans la petite table de la cuisine. C'était merveilleux.
C'est joli,
au passage, avant de continuer sur la petite carrière de 40 ans, tu fais de la musique toi-même ?
Non. Une fois, j'ai pris le violoncelle de mon père entre les jambes, il m'a dit « Ah, fou, dans la famille, ça suffit. »
C'est pas mal.
J'adore.
Ah, c'est pas mal.
J'adore. Alors, François-Éric Gendron est acteur, comédien, il joue au théâtre, il joue au cinéma, il joue à la télé. Il pratique également le doublage. Alors, mesdames, calmez-vous, car il est la voix française régulière. Donc, j'ai posé la question sur le Facebook de « C'était pas prévu au programme » de l'acteur britannique Sean Bean. Alors, quand on dit Sean Bean, la moitié des gens vont dire « Qui est Sean Bean ?» Mais toi, tu vas nous le dire, qui est Sean Bean ? Dans quel film, par exemple, as-tu tourné à travers Sean Bean ?
J'ai commencé à doubler Sean Bean dans « Le Seigneur des Anneaux ».
Voilà.
Déjà,
malheureusement, il meurt à la fin du premier film. Donc, après, je l'ai dans « Benjamin Gates ». Après, ça a été « Lille ». Après, il y a eu plein d'autres films.
Alors, c'est quand même avec le monsieur, comment il s'appelle, le neveu de Coppola, Benjamin Gates, Nicolas Cage.
Ouais, Nicolas Cage.
Nicolas Cage.
Ouais. Ah, non, il c'est un grand monsieur, on ne s'en rend pas compte. Hein. Mm-hmm. Il est devenu un admirateur, j'ai cru comprendre, de Jean Gabin.
Ah, j'ai toujours été. Oui,
d'accord,
toujours.
Et tu l'as rencontré ?
Je l'ai rencontré sur un champ de course dans l'Orne. Lui, il avait des trotteurs. Et moi, j'étais passionné de cheval à l'époque. Et donc, j'avais un copain qui montait en concours hippique dans la région. Il m'a dit, viens, je t'emmène aux courses cet après-midi. Et j'ai serré la main.
Ah, c'est mieux,
tu
c'est encore
pas,
mieux.
C'est pas une rencontre, j'étais comme ça, je tremblais. Mais lui, il était avec sa veste de pied de poule, tu sais, avec son petit polo noir et la casquette. Bonjour, monsieur.
Ah, j'adore, c'est un honneur de rencontrer Jean Gabin. J'adore.
Non, mais c'est l'acteur pour moi qui m'a donné, c'était la révélation quand je l'ai vu pour la première fois dans des films. Lui, Piccoli, Mastroianni sont des gens qui m'ont vraiment emmené sur la voie. Quoi.
Mastroianni,
alors, je dis pas ça parce que t'es là, et puis on se connaît assez maintenant quand même. Tu as la classe de ces acteurs parce que... Alors bon, c'est vrai qu'on est d'un papa et d'une maman, donc ils nous font beau, ils nous font moins beau. Ah ça, mais il est beau, moi je suis un homme, il est beau, j'aimerais bien être à son âge comme il est. Il a des beaux cheveux blancs, il est grand quand il parle, et il a du talent. Alors, mesdames, bien sûr, quand je dis François-Éric Gendron, pour certains, elles vont dire, mais ça me dit quelque chose. Oui, ça vous dit quelque chose, car il a eu le fameux rôle de Robert Carvani dans la série télévisée de France 2, qui est...
Avocat et associé.
Voilà, qui ne connaît pas Robert ?
Ah ouais, c'était une très belle tranche de vie, c'était 10 ans de bonheur.
C'est ce que j'allais dire, ça a duré très longtemps.
10 ans, on a commencé en je crois, le 2000 et on a terminé. Oui, c'est ça, 2010. Mmh.
C'était
formidable parce qu'on avait la chance d'avoir des avocats conseils qui vraiment nous donnaient tous les cas concernant la loi, mais non seulement ça, on avait une exigence, les scénaristes étaient merveilleux parce que toutes les intrigues que les gens suivent, est-ce qu'il va finalement sortir avec la petite stagiaire, etc. tout ça, les gens étaient...
En haleine.
À l'époque, c'était carrément une série un peu précurseur.
En fait, ouais. C'est l'équivalent pour moi de 10% aujourd'hui sur les acteurs et les actrices.
Oui, c'est vrai.
C'est le même genre de série.
C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment le...
On en parle.
Oui, ouais, c'est vrai, on en parle. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, chacun a son avis et on discute autour de la table de...
Exactement. Pour remettre le CV quand même de François-Éric Gendron, il a commencé en 61.
Non. Mais
ah bah moi j'ai vu en 61, peut-être que...
Ah bah oui, 61, parce que c'est...
Oui, pour le cinéma.
Oui, c'était sur un film qu'on avait fait sur mon père à l'époque.
Voilà, ah, c'est pour ça que je voulais en parler, La métamorphose du violoncelle.
Exactement,
t'as raison.
Voilà. Mais, alors je vais vous citer quelques films. Il y en a tellement que je ne vais pas tous les citer, parce qu'on a une demi-heure, on n'a pas trois heures.
Et c'est
mais
surtout bon, moi j'ai des questions rigolotes.
Voilà,
derrière.
Mais les films qui ont marqué tout le monde. Ouais. 1981, ça te dit quoi? C'est moi qui pose les questions maintenant.
1980,
tu as tourné avec Josiane Balasco dans...
Ah oui, Les Hommes préfèrent les grosses.
Voilà. Qui ne connaît pas Les Hommes préfèrent les grosses?
Ah oui, c'est vrai.
Il a tourné en 87 dans un film d'Éric Rohmer, L'ami de mon ami.
Oui.
Il a tourné en 1990, déjà, et on va en reparler après pour la pièce de théâtre, avec Madame Brigitte Fosset.
Oui, bien sûr, un film qui s'appelait 3615, Code Père Noël.
Exactement, de René Manzor, qui avait fait le passage, si je ne me trompe pas, voilà. Avec la musique de Francis Lalanne.
Exactement, et c'est Francis qui avait produit ce film.
Énorme. Et dernièrement, notre copain a fait un film, Daniel Cohen, que l'on connaît très bien.
Oui, tout à fait.
Qui jouait le rôle de taxi dans un autre film, et qui a fait Le Bonheur des Uns, et François-Éric Gendron était dans ce film.
Exactement.
Voilà. Ouais. Alors ça, c'est juste pour la filmographie, mais on va continuer avec Maïgui pour ce qu'elle a des questions sympathiques.
Alors, maintenant qu'on te connaît, on vous connaît un peu mieux, excusez-moi.
Ça y est, c'est ton copain, c'est ton pote.
J'aimerais bien que vous arriviez à vous définir en trois mots. Parce qu'ici, c'est la question qu'on pose à tous nos invités.
Grand professionnel, vraiment, j'ai l'humilité de le dire.
D'accord.
Parce que j'aime mon travail. Mmh. Artiste, vraiment, au bout des ongles.
Ouais.
Et passionné.
Ah, voilà. Passionné.
Bah, tu vois, encore une fois, j'adore.
Bravo. Eh ben...
c'est la question qu'on pose à tous nos invités. C'est ce que je dis à chaque fois, mais je le répète. Et finalement, on ne se trompe jamais avec Marc, parce qu'on invite les gens avec notre cœur. On invite qui on a envie d'avoir avec nous autour de cette table. Et il y a toujours un point commun, c'est ou la bienveillance ou la passion. Mmh. Et voilà, donc on se trompe jamais.
On nous a jamais forcé à être comédien ou musicien ou chanteur.
Tout à fait, exactement, tout à fait.
Alors avoir le moteur.
Oui.
Non mais il tape quand même dans le cœur des femmes, parce qu'il faut savoir quand même, au passage en 2010, il a même joué dans Camping Paradis. il est très populaire comme acteur tout en étant... Très classieux, non, mais c'est... Moi, j'aime.
Alors, on enchaîne sur des...
On peut
des
pas tout jouer, malheureusement.
C'est
tu
vrai.
Vois ouais. Alors que moi, je sais que je peux tout jouer. Mais ça, le rapport, enfin, le regard sur moi-même...
On met dans une case.
C'est ça, on a toujours tendance à mettre des gens dans une case. Mais c'est ce que Eddie Mitchell le disait, tout le monde. Il est chanteur, il a eu du mal à être acteur. Et puis, bon, il y en a qui réussissent bien, par exemple, Patrick Bruel.
Ouais,
la passerelle est très, très...
C'est vrai, voilà, ça vous est arrivé. Je ne sais pas comprendre Patrick Bruel. Mais ça vous est arrivé de...
Calmez-vous.
Ouais. Ça vous est arrivé de refuser un rôle?
Oui, bien sûr.
Ouais.
Oui, oui.
Je trouve que c'est bizarre.
J'irai plus loin. Est-ce que ça t'est arrivé de refuser un rôle, mais qui a été un rôle qui a permis de faire exploser un artiste? Un
non,
comédien
non, 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 non.
Donc tu as fait le bon choix.
J'ai fait le bon choix, exactement.
Bon, voilà, c'est ça qui est dur.
C'est François Perrier qui avait dit ça à Daniel Auteuil. Je lui ai dit, quand tu refuses un rôle, regarde qui le prend. Et si tu vois que c'est... T'as bien fait, t'as fait le bon rôle.
Ouais.
Daniel Auteuil, qui l'a rencontré maintes et maintes fois, je suis sûr, au cours de sa carrière, mais notamment en 2016, dans L'Envers du décor de Florian Zeller.
Exactement. Florian Zeller qui vient d'avoir son petit Oscar, quand même.
Oui,
c'est pour ça que j'en parle.
Ouais. Tout à fait, c'est vrai.
Et cette pièce, est-ce que c'est un beau souvenir
Sublime.
Parce que là, c'est...
Ah oui, parce que Florian Zeller, d'abord, dans un registre de comédie, Daniel, qui est un ami de longue date, et qui m'a dit, il n'y a que toi que je veux et c'est personne d'autre. Donc il n'y avait pas l'histoire de casting, de machin.
Ouais,
ça.
Ça a été un
choix. Voilà, et puis après, l'exigence dans le travail, parce que lui, c'est un stacanoviste du travail. Mm-hmm. Et puis, on avait un support merveilleux au Théâtre de Paris, 1200 places tous les soirs, plein.
Donc, oh, ça, c'est
grand
c'est
rêve.
Vrai, c'est merveilleux.
Et après, on est parti en tournée avec des grandes salles, immenses salles, et c'était rempli à chaque fois.
C'est génial.
Ouais,
alors,
c'est un grand bonheur.
Marc et moi, on sait de source sûre que vous aimez manger.
Oui.
Quel serait pour vous le casting idéal pour un dîner chez vous? quand je dis le casting, qui vous aimeriez avoir autour de la table?
Autour de la table? Marc Fuchel.
J'adore. Ah, c'est mignon. Non,
le casting idéal. Alors, j'aimerais que ça soit réalisé par Guy Savoie.
Voilà.
Parce que j'aime beaucoup Guy Savoie.
D'accord.
Robuchon aussi avait fait des choses que j'aimais beaucoup. Je fais le casting des cuisiniers.
Ah, bah, bien sûr. Vous
voilà.
Pouvez, bien
et
sûr.
En dessert, peut-être un petit Hermès.
Oh, c'est bien. Bon, ben, on va manger quand chez.
Ça y est, c'est la trappe couillon,
on y va,
ça.
On y va quand alors? On y va quand? Voilà, d'accord.
Alors moi.
Mais ça peut être très simple. Vous savez, là, il y a deux jours, j'ai emmené mes enfants dans le 13e arrondissement, au fauteuil. Le fauteuil, c'est le meilleur pour moi, le vietnamien thaï de Paris.
Ouais.
Ou aller Robuchon, ou Ducasse, ça va. Voilà.
Alors, c'est marrant parce que quand j'étais petit, alors aujourd'hui, le 13e, c'est forcément tout ce qui est asiatique. Mais moi, quand j'étais petit, c'était pas du tout ça parce que mon père était dentiste et travaillait à l'hôpital Sainte-Anne.
Ah ouais.
Ah oui, donc en fait,
c'était à l'hôpital Sainte-Anne juste à côté.
Ouais. T'as d'autres souvenirs, ouais, toi, coup, du 13e.
Moi, Sainte-Anne, c'est autre chose. C'est que quand j'étais au conservatoire, on m'a appelé pour aller sous les drapeaux. J'avais pas envie d'y aller, donc j'ai répété ma réforme.
Ah ouais.
Ah ouais. Voilà.
Ah ouais.
Et quand je suis sorti, j'étais voir le médecin-chef pour les 3 jours et il m'a dit. Ne vous inquiétez pas, on va vous accompagner à Sainte-Anne et tout va bien se passer.
Génial. Arnaud, juste pour que tu comprennes, parce que tu n'es pas de cette génération, à l'époque, on était obligé de faire le service militaire. Et donc, on avait 3 jours. Tu vois.
Il y avait 3 jours
tout.
Obligatoires.
En fait, tu pouvais être G5 ou P5. G5, c'était physiquement invertébré. Et P5, tu étais complètement déglingué. Voilà.
Alors, moi, je ne suis pas réformé, je suis exempté.
Bah, oui, c'est pas la même chose.
Moi,
P4. Ouais,
moi, j'étais G5.
D'accord, c'est très...
G5, je ne pouvais plus respect.
On va faire une petite pause.
Déjà
on est obligé, on fait 2 minutes, hein, pas
tu
plus.
Tu sais pourquoi
hein.
On fait une pause? Parce que sans Radio Shalom, il n'y a pas de pub, et sans pub, il n'y a pas de Radio Shalom.
C'était pas prévu au programme. 16h30, 17h, bienveillance, respect, sourire, c'est tout ça l'esprit de Marc et Maggie.
Alors vous êtes toujours sur C'était pas prévu au programme avec notre invité François-Éric Gendron. Rebonjour, on
Bonjour.
Est super content. On va continuer nos questions. Marc, je crois que c'était à ton tour cette fois-ci. Après, c'est moi.
Moi, j'ai pas une question. Moi, j'ai plutôt une confirmation, une affirmation.
Alors, une confirmation. Vas-y.
En fait, je voulais savoir parce que dans les séries télévisées que tu as faites, en dehors bien sûr de Avocats et Associés que tout le monde connaît, quelle est celle qui t'a le plus marqué? Parce que j'ai vu tellement de choses importantes pour tous les âges, pour ceux qui sont passionnés de cinéma ou de séries télévisées. T'as joué dans les 5 dernières minutes. T'as joué dans Château-Vallon.
Non, mais attends, en revenant plus proche que ça, il y a eu le proc que j'ai fait pour TF1.
Oui.
Il y avait une série que j'ai... Une expérience formidable, j'ai fait 2 ans dans une série américaine à Dallas. Ça, c'était en 92. Tu vois, c'est pas tout jeune.
Ouais.
Et ça, c'était une expérience formidable parce que c'était un challenge sur moi-même de tourner en anglais, d'être assimilé CBS tous les mardis soirs. Enfin, tu vois, c'était un truc assez
important. Comment ça s'appelle la série ?
Dangerous Curves.
C'est ce que j'ai vu, mais au départ, j'ai eu un doute. Je me suis dit, ça se trouve, il a fait le doublage. Parce que des fois,
tu as joué dedans. Et puis après, là, je viens de terminer un film pour la BBC. Tu vois, donc, après, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger. J'ai fait 10 de films en Espagne. J'ai fait une série en Espagne qui a cartonné. Après, j'ai fait plein de films cinéma.
C'est génial,
très grand metteur en scène.
Et tu parles espagnol couramment, Laurent ?
Oui. Et puis après, j'ai fait aussi beaucoup de travail en Italie. J'ai fait aussi pas une série, j'avais fait 2-3 films qui ont cartonné. Et puis voilà, on ne sait pas où on va, on fait des tranches de vie. Alors, j'étais à un moment, j'étais tout le temps à Rome, après j'étais en Espagne beaucoup, après aux États-Unis, je suis retourné aux États-Unis. Et puis grâce à ça, j'ai tourné avec Elizabeth Taylor, j'ai tourné avec Richard Burton,
c'est
des trucs comme ça, tu vois.
C'est
des rencontres. Et quand tu commences une carrière, tu ne sais pas où tu vas, et puis tu trouves un jour, on t'appelle en 96. Voilà, j'ai un moyen métrage, John Frankenheimer, qui était formidable. Voilà, un film. Qui est la partenaire? Elizabeth Taylor. On fait ça. Wow. Ils avaient reconstruit le port de Long Beach sur le QE2, le Queen Elizabeth II. Et on a tourné pendant 20 minutes. Et en fait, je ne savais pas. Et en fait, c'était pour un film publicitaire pour son parfum qui s'appelait Fragrant Jewels.
Mais c'est génial. J'allais vous poser la question, un de vos plus beaux souvenirs professionnels. Finalement, vous m'avez répondu avant. Mais s'il y en a un autre, on aime bien savoir.
Oui. Oh, puis tourner avec Alain René. Alain René, c'était quelqu'un extraordinaire parce qu'il vous nourrissait avec les personnages. Mmh. En plus, je tournais avec Depardieu, je tournais avec Geraldine Chaplin, avec Michel Prel, avec des grands acteurs. On a beaucoup appris là. La première expérience de Depardieu en anglais. Donc on a eu des fous rires.
J'imagine.
Moi, j'avais vu à l'époque dans Green Card, je ne sais pas si
c'était... C'est ton premier film, ça.
Voilà.
Et après, il en a fait un autre avec Alain René, justement. sur la bande dessinée qui s'appelait « Je veux rentrer à la maison ».
Oh, c'est sympa. Est-ce que vous avez un geste écolo au quotidien ?
Oui, je fais le tri.
Très bien.
Je fais le tri et je le fais respecter par mes enfants.
Ça, c'est bien. Tout le monde, tu as vu, tu remarques quand même...
On fait le tri des cons, il y en a qui font le tri des déchets.
Non, mais tu vois, tu remarques quand même qu'ils sont... Tu vois, finalement, les gens viennent. Hein.
Ouais, les gens évoluent.
Je la pose souvent, cette question, parce que je veux voir justement si les gens suivent un petit peu tout ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a besoin... Temps, hein. Et finalement, non, mais je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des gestes écolos. C'est important, mais c'est bien de savoir.
Écolo, par exemple, quand je prends ma douche, je me douche, je coupe,
voilà.
Je me savonne
génial.
Et je redouffe. Voilà.
Ouais, c'est génial.
Fichel ?
Oui, non, mais je suis d'accord.
Parce que moi,
pour la brosse à dents.
Ah, tape 5. Voilà, on a tapé 5. Merci.
Mais non, mais
Parce que moi, je ne supporte pas et j'ai pris ça.
Quand je me rase, tu sais.
Voilà.
Bravo,
voilà.
Non, c'est très bien.
Et je vais te dire un truc, il y a quelque chose qui était à la fois écolo, mais qui était une question d'argent quand on était petit.
Oui.
Pas parce que j'ai manqué d'argent, mais c'est ma grand-mère qui m'avait appris ça.
Oui.
À l'époque, mes grands-parents se lavaient les dents, mais mettaient ça dans un bol, l'eau.
Oui.
Et elle buvait l'eau, tu sais, pour se rincer la bouche.
Ah oui, bien sûr.
Elle ne faisait pas quoi.
Oui, je me souviens.
Moi, j'ai connu ça aussi.
Voilà.
Oui, bien sûr.
Et un jour, j'ai dit, mais pourquoi tu bois l'eau ? Je bois pas l'eau, je me nettoie la bouche.
Ouais.
Et elle me dit, c'est pour éviter que ça coule.
Bien sûr.
D'accord, ok, d'accord.
Et c'était il y a 50 ans.
Et lors de la douche, c'est parce que j'étais, quand j'ai rencontré ma femme, on est allé en Afrique du Sud, c'était une année où il y avait une grande sécheresse, et donc il fallait économiser l'eau.
Oui, donc du coup, voilà, c'est un geste qui est resté. Est-ce que vous êtes réseaux sociaux ou pas du tout ?
Oui.
Vous vous y êtes mis, finalement, comme tout le monde ?
Oui, je suis beaucoup. Je ne mets que des informations professionnelles pour moi.
Ouais.
Maintenant, je regarde les copains. Ça me fait plaisir de liker quand toi, tu fais quelque chose. Ça me fait plaisir de faire plaisir.
Ouais. On a regardé un peu votre Instagram et vous avez fait quelque chose de très joli pendant le confinement.
Oui.
Vous pouvez nous dire deux, trois, les gens sachent, parce que j'aimerais bien que les gens aillent écouter et regarder, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment joli, ça faisait beaucoup de bien.
Oui, c'est-à-dire que pendant le début du confinement, je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça à attendre, et tous les comédiens étaient pareils.
Ouais.
Et j'avais envie d'apporter quelque chose, et puis aussi, certainement, je ne savais pas que j'allais recevoir, mais en tout cas, il y avait une très belle écoute, et j'ai dit des textes de Marc Aurèle, j'ai lu des textes de Shakespeare, j'ai lu des textes des morceaux de théâtre, et puis aussi des pensées du jour. Essayer d'aider les gens.
Mais c'était très joli. Moi, j'ai été regarder justement quand Marc m'a dit qu'il voulait vous inviter, qu'on vous invitait. Donc, du coup, j'ai creusé un peu plus et j'ai écouté. Et franchement, c'est très joli. Bravo. Et j'ai regretté du coup de ne pas avoir écouté tout ça en direct pendant le Covid parce que.
Moi, j'écoutais. J'ai même mis des commentaires. Je trouve ça. Ça fait du bien tout simplement.
C'était...
Ça faisait du bien à tout le monde. Moi, le matin, j'étais à mon bureau en train de chercher une thématique pour l'après-midi.
Oui, ça nourrit. Au moins, on est occupé parce qu'on a passé des moments. C'est
exactement.
Vrai que le milieu artistique, ça a été particulièrement très
difficile. C'est là où j'ai dit merci au Waldo Rungis, parce que nous, on n'était pas confinés. Donc,
ça a marché comme jamais.
Alors oui, il y a eu beaucoup de travail différent, parce que tu sais, les trois premiers mois, on a travaillé sans masque, sans rien. Nous, à l'époque, il n'y avait pas de masque. On devait aller travailler pour que les gens puissent manger.
Bien sûr.
Et on nous prenait un peu pour les sauveteurs de l'humanité, tu vois, et c'était très drôle. Ouais. Quand tu prends ta voiture, que tu vas travailler le matin, qu'il n'y a personne, c'est normal, à 4h ou à 3h. Mais quand tu reviens à midi, et que t'es tout seul dans la rue, je te jure, ça fait un truc très très space.
Je me souviens, t'étais pas... Si vous deviez être un héros, qui seriez-vous ?
Oh, j'aurais bien aimé être James Bond.
James Bond ?
Ah ouais, j'aurais bien aimé.
Mais ça m'énerve.
Yeah. J'aurais bien aimé, parce qu'il y avait de l'humour, il y avait de la tendresse, il y avait du charme, il y avait... Voilà, ça faisait rêver. Moi, j'aime bien les choses qui font rêver.
Mais oui,
mais complètement, il aurait pu faire James Bond.
Mais tu sais, toujours...
Oui, ils n'auraient jamais pris un français.
Pourquoi ils peuvent essayer ?
C'est British.
Ah, c'est ça. Bon. Pour toi, quel est le meilleur acteur pour James Bond ?
Craig est très bien. Craig est très bien. Pierce Brosnan était très bien. Sean Connery était formidable.
Moi, c'est Pierce Brosnan parce que je trouvais que déjà dans Remington Steele, il avait un humour décalé très bon.
Tout à fait.
Il
était tout à fait formidable pour le film.
Quel bel homme.
C'est vrai.
Moi, puisque tu aimerais avoir ce genre de rôle. C'est dommage. Aujourd'hui, tu pourrais toujours avoir un rôle peut-être chez...
Du grand-père.
Pas du grand-père, du conseiller technique, tu sais, dans une sorte de James Bond à la française. Je suis sûr que ça,
ça existe.
Jean Dujardin fait formidable aux années 1917.
Ah, mais je te parle très bien dedans, mais dans un contre-rôle.
Ah, bah moi, vous voyez, en tant que femme, je trouve que non. Pour moi, James Bond, je verrais plus vous.
Ah oui,
non, mais vraiment, là, c'est pas parce que...
Non, mais là, c'était drôle,
vraiment.
C'est 117.
Oui, voilà. J'aurais bien voulu qu'on parle de...
Bah, bien sûr,
de son actu.
Donc, son actu, c'est quoi ? C'est une pièce de théâtre qui va arriver, là, partout.
À partir de... On est en train de décaler un tout petit peu, parce qu'il y a tellement de spectacles qui vont se
bouler. Bien sûr.
Donc, on veut commencer bien. On va commencer par une tournée et après, on viendra à Paris.
Voilà. Alors, la tournée, la pièce de théâtre s'appelle « Je t'écris, moi non plus ».
Exactement.
Avec sa copartenaire Brigitte Fossé.
Exactement.
Donc, je vous explique à François-Éric Jandon
et
Brigitte Fossé, donc, qui connaît depuis nombreuses années, puisqu'ils ont travaillé déjà ensemble.
Et puis, c'est ça. Et puis, on a fait un spectacle à François Mauriac à Bordeaux ensemble.
Voilà, ils ont lu des
des textes
de François Mauriac. C'est vrai que c'était fabuleux. Hein. J'ai vu les commentaires.
Ouais, ouais.
Alors, c'est quoi le pitch de cette jolie pièce ?
Il y a une pièce qui s'appelait « Love Letters ». C'était des lettres d'amour qu'il y avait,
oui.
que Jean Marais avait fait avec
Edith
Feuillère.
Oui, bien sûr. Ça a été repris il y a une dizaine d'années
oui,
aussi.
Oui, c'est ça. Il y a eu Noiret avec Anouk Aimée et tout ça. Mmh. Sauf que là, ça s'appelle « Hate Letters ». Des lettres de haine.
Ah.
En fait, c'est un couple qui va divorcer.
Oui.
Donc, on s'envoie des lettres, on passe par toutes les couleurs. Et c'est merveilleux. Mais à la fin, je ne vous dis pas la fin.
Ah ben non, nous dites non, non surtout
et je
pas.
Suppose que les accords de musique, n'importe quoi, les textes doivent être fabuleux parce que là, ça doit...
C'est formidable, c'est très bien écrit par Jean Franco et Thierry Lassalle, mis en scène par Anne Bourgeois que j'adore, et donc on est bien parti. On a fait déjà deux longues séances de travail avec Brigitte et Anne, et ça se passe très très bien.
Ça c'est génial.
Ça c'est génial.
La première date de tournée, tu sais où ça sera joué?
On va être dans le sud de la France en résidence.
En résidence.
On va jouer une fois. Et après, je crois que c'est en Bretagne la première.
Très bien. Donc Paris, ça sera plus en 2022.
Exactement.
D'accord. Bah, on en reparlera à ce moment-là parce que
exactement.
Franchement, ça, je crois
que
c'est une pièce. Oui, avec plaisir. Parce
avec
que là,
Brigitte Fossé, les deux.
Avec...
Alors là, pourquoi pas. François-Éric et Brigitte Fossé, Radio Shalom. La radio.
Là, j'avoue.
Elle nous fait du couscous.
Voilà, j'avoue, c'est vrai. Une ville qui vous ressemble le plus, on enlève Paris, hein, parce que je sais que bon, Paris, mais on enlève Paris, quelle est la ville qui vous ressemblerait le plus
Positano.
Positano.
Alors, c'est très grand qu'ils me disent ça.
C'est sur la côte amalfitaine.
Ouais. Amalfitaine, c'est magnifique.
Ça rassemble tout ce que j'aime, c'est le charme, c'est les vieilles constructions, l'Italie, la nourriture, la belle mer pour se nager, enfin... J'aime l'Italie, Je suis passionné par l'Italie.
Oui.
J'étais en Sicile l'année dernière avec ma femme. Cette année, on projette peut-être encore d'y retourner.
Moi, personnellement, j'aime aussi beaucoup
l'Italie. J'aime les Italiens, j'aime la culture latine, j'aime l'histoire latine.
Tu vas faire l'americano? Tu vas faire l'americano?
L'americano.
Vous parlez italien, j'imagine.
Certo.
Tu veux nous mettre un tout petit bout de...
Tu vas faire l'americano.
Juste pour se faire plaisir.
Tu vas faire l'americano.
I want to know.
Well, I want to know.
Alors, les jeunes qui arrivent aujourd'hui, qui veulent faire du théâtre, qui veulent faire du cinéma, ça sera ma dernière question, mais j'aime bien avoir l'avis d'un grand comme vous. Quel serait le conseil que vous pourriez leur donner, en fait ? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, devenir un artiste, je trouve que c'est très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent. On en rencontre beaucoup avec Marc, et il y en a beaucoup qui restent derrière. Qu'est-ce qui va faire la différence pour vous aujourd'hui avec la situation actuelle, la manière dont tout se fait, la manière...
Tous les dés sont relancés. Il n'y a pas de règles.
Ouais.
Maintenant, c'est vu à la télé, c'est dans la rue, c'est banana. Ça a toujours existé, ça, mais maintenant, on prend des présentateurs, Stéphane Bert pour jouer un flic. Il n'y a plus de repères tellement. Et maintenant, je crois que c'est la passion. Et puis, quand on est bon, on est bon.
Oui, c'est ça.
Un jour ou l'autre, ça explose.
Oui, c'est ça.
Il ne faut rien lâcher.
Jamais. C'est Anthony Hopkins que je viens de voir dans The Father. Et il y a un petit truc sur Instagram où il dit « Believe, believe, believe. Croyez en vous. Il ne faut pas lâcher.
Ben, » c'est joli. Alors moi, ma référence pour ça, c'est dans Peter Pan, la fée qui dit exactement la même chose.
Oui.
Faut croire en soi.
C'est
la même chose. Ouais. On a chacun nos références.
Exactement.
Moi, c'est Peter Pan.
Ouais.
Ça, c'est pour François-Éric Jandron.
Et on va terminer là-dessus. 57.
C'est un des originaux. Hein. Très jazzy.
J'adore. Ah oui.
Ah ouais, ouais. Ah. Il danse, il tape des mains.
J'adore. On laisse ça. On vous remercie beaucoup.
Merci de m'avoir accueilli.
Vraiment, c'était un plaisir. Vraiment un plaisir. Maintenant qu'on sait que la pièce se jouera à Paris l'année prochaine, on vous remercie beaucoup. C'était très sympa.
L'Americano.
Marc, t'es à fond. Marc, demain, on reçoit qui ?
Pierre Donoré.
Pierre Donoré, un auteur, artiste, compositeur, interprète qui est pas mal, qui est pas mal du tout.
Donc,
il
de vient... Noé.
Ouais, c'est un peu ça. Merci Arnaud.
Merci Arnaud.
Et voilà, je te
merci
laisse.
Merci Radio Show. Merci, c'était pas prévu au programme. On est toujours ravis de chanter, de taper dans les mains. Il est 16h58. Je vais bientôt laisser le micro. Mais avant, j'annonce le flash international de monsieur, du grand Pierre Gandus. Heureusement, il y a Gandus. Grandis.